Europe 1.
On pourrait dire que cette histoire commence là, sur le perron de l'Élysée, le 16 mai 2012, le jour où on annonce la composition du premier gouvernement de François Hollande.
Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, chargé du budget.
C'est lui qui nous intéresse, le nouveau ministre délégué au budget. Dans quelques jours, il va avoir 60 ans. Et franchement, c'est son heure de gloire. Il est ministre, enfin. Ministre délégué, certes, il y a mieux, mais ministre tout de même. Et c'est pas mal pour le docteur Cahuzac de Villeneuve-sur-Lot, qui a débuté sa carrière comme chirurgien esthétique, qui a monté une clinique avec sa femme spécialisée dans les implants capillaires et qui, du coup, s'est lancé en politique très tard, en 1996. 16 ans. Il a mis 16 ans à faire son parcours du combattant, député, maire de Villeneuve-sur-Lot, président de la commission des finances, et maintenant ministre. Bravo, monsieur Cahuzac. Bien joué. On note que l'une de ses premières interventions, en septembre 2012, devant le Sénat, porte sur la fraude fiscale.
La lutte contre l'évasion et plus généralement contre la fraude fiscale ou la fraude sociale sont donc des luttes qui sont évidemment d'actualité. La fraude elle-même ouvre droit à 4 milliards d'euros de notifications, dont seulement la moitié, monsieur le sénateur, est recouvrée. Ce pourcentage ne traduit pas une efficacité satisfaisante aux yeux du gouvernement et c'est la raison pour laquelle des moyens supplémentaires seront donnés à l'administration compétente afin que cette efficacité s'améliore.
Je crois il est bon sur le sujet, le ministre Cahuzac. Et il a raison, l'État a besoin d'argent et lutter contre la fraude fiscale est l'une des meilleures méthodes pour faire rentrer du cash. Et d'ailleurs en novembre, il présente sa réforme pour lutter contre la fraude fiscale. Ce qu'il ne sait pas, Jérôme Cahuzac, à ce moment-là, c'est qu'il a Mediapart au Basque. 4 mois. 4 mois que le journaliste Fabrice Arfi de Mediapart est sur son dos, discrètement, et qu'il s'apprête à sortir un gros scoop qui va ruiner sa carrière à petit feu. En général, avant de sortir un scoop, les journalistes d'investigation préviennent. Ne serait-ce que pour pouvoir intégrer la réaction de l'intéressé à leur papier. Le ministre Cahuzac est prévenu le 3 décembre 2012. À ce moment-là, il est à l'Assemblée nationale, au banc du gouvernement. Un huissier lui fait passer une feuille de papier. C'est un mail de Fabrice Arfi de Mediapart, qui lui pose 5 questions. Je vous le lis, ce mail. Selon les éléments que nous avons réunis, vous avez détenu un compte non déclaré en Suisse à la banque UBS jusqu'en 2010, date d'un transfert de vos fonds vers un paradis fiscal en Asie. Petit 1. Pourquoi ne pas avoir déclaré ce compte suisse ouvert à l'époque où vous étiez conseiller du ministre de la Santé, Claude Évin? Petit 2. Pouvez-vous nous préciser l'origine des fonds qui l'ont alimenté? Petit 3. Avez-vous envisagé la clôture de ce compte fin 2000, quelques mois avant l'élection municipale de 2001? Petit 4. Avez-vous été informé du fait que l'existence de ce compte ait été portée à la connaissance de votre prédécesseur Éric Woerth en juin 2008? Petit 5. L'ancien ministre ou l'administration vous ont-ils alors alerté? Les questions sont précises et elles appellent des réponses précises. Et quand il lit ça, Cahuzac ne peut plus ignorer que Mediapart a des biscuits, comme on dit. Alors, comme le mail évoque Éric Woerth, son prédécesseur, et qu'il suggère qu'il est au courant, Cahuzac se retourne et il le cherche dans l'hémicycle, sur le banc de la droite. Et il l'aperçoit et il lui fait signe, de loin.
« Faut que je te voie !»
Salut Éric. Dis donc... Mediapart s'apprête à sortir que j'ai un compte en Suisse. Bon, c'est faux, bien sûr. Ils me disent que t'étais au courant quand t'étais à Bercy. C'est vrai, ça? Ah non, je te jure, jamais je n'ai entendu parler d'une telle histoire. Et ensuite, Jérôme Cahuzac envoie un SMS à Laurent Mauduit, qui a cofondé Mediapart avec Edoui Plenel. « Avez-vous été informé des questions bien étonnantes que M. Harfi souhaite me poser ?» Et dans la foulée, il envoie 1, 2, 3 messages. Il se défend, il ne comprend pas, on lui veut du mal. Normalement, dès cet après-midi-là, du 3 décembre 2012, Jérôme Cahuzac a compris qu'il est cuit. Il sait, lui, que Mediapart dit la vérité. Il peut se douter qu'il n'avance pas comme ça, sans preuve. Edoui Plenel et ses journalistes ne sont pas des débutants. S'ils accusent, c'est qu'ils ont les moyens d'accuser. Il est cuit. Dès lors, la raison lui commande de dire oui. Oui, j'ai un compte en Suisse. Oui, je l'ai caché. Et après, il démissionne. Toute sa carrière est par terre. Mais c'est moins grave que de s'enfoncer dans le mensonge. Et pourtant, c'est ce qu'il va faire. Contre toute raison.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Cahuzac, que nous allons débriefer tout à l'heure avec Charlotte Chaffanjon, qui est journaliste à l'Hebdo et qui a consacré tout un livre à cette affaire, Jérôme Cahuzac, les yeux dans les yeux chez Plon, dont je me suis évidemment beaucoup servi. Voilà où nous en étions. En décembre 2012, Jérôme Cahuzac est ministre du budget depuis 6 mois et il apprend que Mediapart s'apprête à révéler qu'il a eu un compte en Suisse jusqu'à il y a 2 ans. Le journaliste Fabrice Harfi de Mediapart lui envoie un mail très clair. « Nous savons que vous avez détenu un compte non déclaré en Suisse à la banque UBS jusqu'en 2010, date d'un transfert de vos fonds vers un paradis fiscal en Asie. » Et il lui pose 5 questions très précises. Paniqué, Cahuzac appelle alors l'un des patrons de Mediapart, Laurent Mauduit.
Tout est faux, monsieur Mauduit. Tout ça est totalement inventé. C'est honteux ce que vous faites. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est comme si vous regardiez sous la jupe de ma fille pour savoir si elle est encore vierge.
Écoutez, monsieur Cahuzac, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de répondre aux questions que vous pose Fabrice Harfi. Et puis si on s'est trompé, ben, on le dira. Jérôme Cahuzac raccroche. Il ne veut pas répondre à ce Fabrice Harfi. Et là, en bon politique, il appelle un communicant, un spécialiste de la communication de crise, l'un des meilleurs, Stéphane Fuchs, de Euro-RSCG. C'est lui qui a organisé la candidature de DSK à la présidentielle et géré le cataclysme du Sofitel. C'est un rusé. Il appelle Fabrice Harfi. De deux choses l'une, monsieur Harfi. Si vous êtes sûr de ce que vous avancez, ça ne sert à rien d'organiser une rencontre avec monsieur Cahuzac. En revanche, si vous avez encore des doutes, si vous n'êtes pas sûr d'écrire votre article, alors dans ce cas, je pense que je peux le convaincre de vous rencontrer. C'est rusé, même si la ficelle est un peu grosse. Fuchs veut juste savoir s'ils ont du concret. Mais Harfi non plus n'est pas tombé de la dernière pluie. Ça ne se passe pas comme ça, monsieur Fuchs. Je suis absolument certain de ce que j'avance. Et bien sûr, j'ai des éléments. Ce que je veux, c'est échanger avec le ministre, c'est tout. Je veux recueillir ses explications. Cahuzac est coincé. Il doit répondre à Fabrice Harfi. Rendez-vous est donc pris pour le lendemain au ministère du budget à 11h30. Le ministre n'a mis qu'une condition. Que Fabrice Harfi vienne avec l'un de ses chefs. Ce sera François Bonnet, le directeur éditorial de Mediapart. Et les voilà donc face à face. Harfi et Bonnet d'un côté, Jérôme Cahuzac de l'autre. Le ministre sort son iPhone de sa poche et il le pose sur son bureau.
Vous comprendrez que j'enregistre tout, monsieur Harfi.
Pas de problème, monsieur Cahuzac. Nous allons en faire autant. Alors, première question, pourquoi ne pas avoir déclaré ce compte en Suisse au fisc, monsieur le ministre ?
Je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Vous vous doutez que nous ne lançons pas des accusations dans le vent. Nous avons des éléments, monsieur Cahuzac.
Mais quelles preuves ? Si vous écrivez ça, je vais devoir vous attaquer. Je ne vais pas répéter mon démenti jusqu'à la Saint-Glinglin.
Fabrice Harfi tente bien de lui parler d'un déplacement à Genève au cours duquel il aurait fermé son compte, mais Cahuzac esquive.
Le rendez-vous est terminé. Il a duré moins de 10 minutes. À ce moment-là, Cahuzac a compris que le papier de Mediapart va sortir. Quoi qu'il arrive, il n'a plus le choix. Il appelle le président Hollande. Il lui laisse un message. Et après, il appelle le premier ministre Jean-Marc Ayrault.
Allô ? Jean-Marc ? Je voulais te prévenir. Mediapart s'apprête à sortir un article qui dit que j'ai eu un compte en Suisse. Bon, je te jure que tout ça est faux, hein.
Ce jour-là, Hollande est en déplacement à Lens. Il inaugure la nouvelle antenne du Louvre. Il le rappelle après le déjeuner.
Jérôme, j'ai eu ton message. Dis-moi, c'est vrai ou pas cette histoire ?
Mais non, bien sûr que non, François. Enfin, tout est faux. Comment peux-tu en douter ? Je vais le démontrer, même si pour l'instant, c'est à eux de le prouver. Ils doivent fournir les preuves.
Le papier de Mediapart sort le lendemain, le 4 décembre. Arfi et Bonnet l'ont peaufiné jusqu'à la dernière minute avec Edoui Plenel. Le compte en Suisse du ministre du budget, Jérôme Cahuzac. C'est une bombe médiatique.
Mais donc d'abord, Isabelle, cette affaire possiblement embarrassante pour le ministre délégué au budget.
Le site d'information Mediapart assure en effet que Jérôme Cahuzac aurait longtemps détenu un compte bancaire non déclaré en Suisse. L'intéressé dément ce soir, Alexandre Carra.
Oui, et d'ailleurs j'ai le communiqué sous les yeux, c'est plus qu'un démenti, c'est une contre-attaque musclée à l'image du boxeur qui est Jérôme Cahuzac. Le ministre du budget annonce une plainte au pénal contre l'auteur de l'article et Mediapart. Il dénonce des affirmations délirantes et menace, je cite, tous ceux qui colporteraient ces élucubrations de poursuites judiciaires.
Le lendemain, 5 décembre, Jérôme Cahuzac choisit RTL pour sa première interview. Et il se retrouve face à Jean-Michel Apathy.
Le site de Mediapart écrit ceci vous concernant. Le ministre du budget Jérôme Cahuzac a détenu pendant de longues années un compte bancaire non déclaré à l'Union des banques suisses de Genève. Est-ce que ceci est vrai, Jérôme Cahuzac ? Non, non, ça ne l'est pas. La difficulté que j'affronte, c'est que je dois prouver quelque chose qui n'existe pas.
En une phrase, le ministre vient de poser sa ligne de défense. Décrédibiliser le travail de Mediapart. On est mercredi et cet après-midi ont lieu les traditionnelles questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas y échapper, il n'a pas le choix. Il est assis au banc des ministres en bas de l'hémicycle. Et bien sûr, la première question est pour lui. Elle est posée par le sarkozyste Daniel Fasquelle, qui reprend dans l'ordre les cinq questions de Fabrice Arfi.
Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Merci, monsieur le député, de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale.
Pour la deuxième fois de la journée, Jérôme Cahuzac vient de s'enfoncer publiquement dans le mensonge. La fuite en avant.
On de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Cahuzac, une histoire que nous allons débriefer tout à l'heure avec la journaliste Charlotte Chaffanjon, désormais journaliste au nouveau magazine, l'Hebdo, et auteur en 2013 chez Plon de Jérôme Cahuzac, les yeux dans les yeux. Nous en étions au moment où Jérôme Cahuzac, ministre du budget de François Hollande, 6 mois après sa nomination, est accusé par Mediapart d'avoir détenu un compte en Suisse jusqu'en 2010 et d'avoir ensuite transféré l'argent dans un paradis fiscal en Asie. À ce stade, Cahuzac nie, devant les journalistes et devant les députés. Mais Mediapart dit détenir des preuves. Et Mediapart abat sa première carte le 5 décembre en fin d'après-midi.
Le site d'information en ligne Persiste et Signe, il a publié un enregistrement sonore dans lequel on entend un homme présenté comme Jérôme Cahuzac évoquer au téléphone un compte qu'il aurait eu à la banque UBS. En voici un extrait.
En fait, j'ai toujours un compte ouvert à l'UBS, mais
Un sonore de piètre qualité, vous venez de l'entendre, un sonore que je me permets de traduire. Ce qui m'embête, c'est que j'ai toujours un compte ouvert à l'UBS. La seule façon de le fermer, c'est d'y aller.
Je vous laisse juge, mais honnêtement, on ne reconnaît pas à 100% la voix de Cahuzac dans cet enregistrement. François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'écoutent bien sûr, à fond d'ampli. Mais ça ne suffit pas à leur faire perdre la confiance qu'ils ont dans leur ministre. Et du coup, Cahuzac a beau jeu de dire « Mais c'est pas moi! C'est pas moi qui parle !» Edoui Plenel, le patron de Mediapart, est obligé de monter au créneau pour défendre son enquête.
Il ne s'agit ni d'impressionner M. Cahuzac, et ce n'est pas une bataille entre Mediapart et Cahuzac. C'est un élément qui fait partie des autres éléments d'une enquête de plusieurs semaines. Mediapart est sûr de son fait. M. Cahuzac a eu, dans les années 90 et jusqu'en 2010, un compte non déclaré à la banque UBS en Suisse.
Le 11 décembre, Jérôme Cahuzac entreprend alors une démarche désespérée. Via son avocat, il prend contact avec la banque UBS en Suisse. Il veut obtenir une preuve qu'il n'a jamais eu de compte chez eux. Refus poli mais ferme de la banque.
Par principe, nous n'accédons jamais à ce type de requête. Nous n'établissons pas de confirmation négative. Voilà.
Pendant les semaines qui suivent, Jérôme Cahuzac croise plusieurs fois le Premier ministre et le Président, qui à chaque fois lui disent
« Jérôme, t'as avancé sur tes démarches auprès des banques ? Ça serait bien une lettre de la Suisse qui prouve que t'as pas eu de compte. »
Et lui répond toujours
« C'est en cours, ça ne va pas tarder. »
Le 21 décembre, Mediapart révèle qui lui a donné le fameux enregistrement. C'est un ancien rival politique de Cahuzac, Michel Gonel, avocat, ancien bâtonnier du barreau d'Agen à qui il a chippé la mairie en 2001. C'est lui qui aurait enregistré cette conversation sur son répondeur. Et puis arrive l'incontournable torpeur des fêtes de Noël. Jérôme Cahuzac va se mettre au vert, en Corse, dans la maison de sa mère. Et là, autant vous dire que dans sa tête de Cahuzac, qui sait qu'il est coupable, ça doit gamberger sec. La trêve est de courte durée. Le 5 janvier, Jérôme Cahuzac apprend que sur la base des articles de Mediapart, le procureur a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Il est cerné. Il appelle tout de suite le Premier ministre et le Président.
Laissez-moi encore un peu de temps. Je vais bientôt pouvoir fournir des preuves de mon innocence, d'accord ?
Et en attendant, le lendemain dimanche, il est dans le grand rendez-vous d'Europe 1. Et il continue de mentir.
Votre démenti, Jérôme Cahuzac, n'a pas empêché le déclenchement de ce que la presse, y compris la presse de gauche, appelle l'affaire Cahuzac. Il y a une affaire Cahuzac ?
De mon point de vue, non. J'ai démenti. Je continue à démentir, à nier que ces accusations aient le moindre accent de sincérité, de vérité, de réalité. J'ai nié en bloc. Je comprends qu'il faut nier en détail. Je nie en bloc et en détail.
Dans un communiqué, Jérôme Cahuzac, enfermé dans son mensonge, est bien obligé de se réjouir de l'ouverture de cette enquête. Cette démarche permettra, comme je l'ai toujours affirmé, de démontrer ma complète innocence des accusations absurdes dont je fais l'objet. Et pour vous dire à quel point Cahuzac, à ce moment-là de l'histoire, est dévoré de l'intérieur par son mensonge, il déclenche un ulcère à l'estomac. Le 16 janvier, ne voyant toujours aucune preuve arriver, Ayrault et Hollande lui demandent de venir le voir après le Conseil des ministres, avec son ministre de tutelle, Pierre Moscovici.
Bon, Pierre, puisque Jérôme, par ses avocats, n'arrive pas à obtenir une réponse, tu vas faire une demande d'entraide à la Suisse. Il faut obtenir la preuve que Jérôme n'a jamais eu ce compte en Suisse. D'accord ?
La réponse arrive de Suisse le 31 janvier sur le bureau de Moscovici. C'est écrit noir sur blanc. Pour Cahuzac, c'est une bouée de sauvetage. il n'a pas eu de compte à la banque UBS, au moins depuis 2006. Ouf ! Cahuzac voit enfin un peu de ciel bleu à l'horizon. Et du coup, contre l'avis de tout le monde, il accepte une interview avec Jean-Jacques Bourdin, le 8 février, sur BFM TV.
Les yeux dans les yeux, est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ?
Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la
à
réponse,
aucun moment.
Et la réponse,
à aucun moment.
À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés.
Les yeux dans les yeux, Cahuzac vient de mentir, une fois de plus.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Cahuzac, en 2012 et 2013, au tout début du mandat de François Hollande. Une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec la journaliste Charlotte Chaffanjon, qui est désormais journaliste au nouveau magazine L'Hebdo, et qui est l'auteur en 2013 chez Plomb de Jérôme Cahuzac, Les yeux dans les yeux. Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, est accusé à partir de décembre 2012 d'avoir détenu, jusqu'en 2010, un compte à la banque suisse UBS, et d'avoir ensuite transféré le contenu de ce compte dans une banque de Singapour. Dans les semaines qui suivent, le ministre dément. Et le président et le premier ministre obtiennent des Suisses un document qui atteste que ce compte n'a jamais existé, en tout cas depuis 2006. Nous en étions là, fin janvier 2013. Et là, s'écoule un peu de temps jusqu'au 15 mars, où Mediapart en remet une couche.
Mediapart persiste et signe. La voix sur la bande audio serait bien celle de l'actuel ministre du Budget. Le site internet d'investigation affirme en tout cas que les enquêteurs ont authentifié cet enregistrement. Le ministre, souvenez-vous, avait pourtant assuré aux députés qu'il n'avait aucun compte à l'étranger.
Le 19 mars, ça se corse. L'enquête préliminaire du parquet débouche sur l'ouverture d'une information judiciaire. Un juge d'instruction est désigné. Et ça c'est toujours un mauvais signe. Alors le président Hollande et son premier ministre Jean-Marc Ayrault s'appellent.
Jean-Marc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais maintenant qu'il y a une information judiciaire, il ne peut pas rester au gouvernement, on est d'accord?
Oh, je suis d'accord avec toi, François. Je le lui fais savoir tout de suite. Vers 16h30, Ayrault appelle son ministre du Budget.
Bon, Jérôme, avec cette nouvelle, tu comprends qu'on vient de franchir une nouvelle étape.
Je comprends, oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Je veux que tu partes.
François Hollande appelle dans la foulée pour bien enfoncer le clou. Cahuzac rentre à Bercy et il rédige sa lettre de démission qui est rendue publique peu après 19h.
La chute de Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, a démissionné ce soir quelques heures à peine après l'ouverture d'une information judiciaire sur l'existence d'un éventuel compte en Suisse. On va revenir dans quelques minutes sur cette décision du parquet de Paris.
Le lendemain, le 20 mars, le désormais ex-ministre a rendez-vous avec son avocat, maître Gilles Auguste, et il lui dit enfin la vérité.
Gilles, je mens à tout le monde. Depuis le début, j'ai bien eu un compte non déclaré en Suisse.
Bon, d'accord. Dans ce cas-là, tu comprendras que je ne peux plus te défendre.
Maître Auguste lui suggère d'aller voir un de ses confrères, Maître Jean Veil, l'un des meilleurs à Paris. Cahuzac va le voir 4 jours plus tard, un dimanche.
Maître, je me suis mis dans une galère. Qu'est-ce que je dois faire?
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, que vous vous êtes mis dans une galère. Eh bien, écoutez, vous devriez écrire au juge pour convenir d'une convocation.
Jérôme Cahuzac écrit au juge 2 jours plus tard. Il est convoqué le 2 avril. Et c'est décidé, il va arrêter de mentir. Il appelle un de ses collaborateurs.
Dis-moi, je vais t'envoyer un texte. Il faut que tu le publies tout de suite sur mon blog.
La confession est mise en ligne à 16h.
Mais tout de suite, donc, ce coup de tonnerre dans l'affaire Cahuzac.
Une après-midi où tout s'est précipité pour l'ancien ministre délégué au budget, Jérôme Cahuzac a été entendu au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Une audition à sa propre demande. Il a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Jérôme Cahuzac reconnaît posséder un compte à l'étranger depuis 20 ans, un compte sur lequel il y a 600 000 euros. Jérôme Cahuzac a donc menti en affirmant le contraire il y a quelques jours encore avant sa démission. Et d'ailleurs, il demande pardon pour ce mensonge. Walid Berissoul, il le fait dans un communiqué sur son blog, un communiqué particulièrement fort.
Le président Hollande réagit d'abord par un communiqué et le lendemain par une courte allocution après le Conseil des ministres.
C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. J'affirme ici que Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection autre que celle de la présomption d'innocence. Et il a quitté le gouvernement à ma demande dès l'ouverture d'une information judiciaire.
Après quoi, Jérôme Cahuzac disparaît des écrans radars pendant 3 semaines. Et il réapparaît le 16 avril dans une longue interview à Jean-François Akili sur BFM TV. C'est Anne Hommel, la grande prêtresse de la communication politique, qui lui a conseillé de faire ce long mea culpa et de renoncer au passage à son mandat de député.
Ceux qui m'ont vu depuis le mois de décembre, en janvier, en février, en mars, ceux qui m'ont vu travailler à ce moment-là, voient bien que je suis en train de me consumer, car cette contradiction interne que je porte en moi, en vérité, je ne la supporte plus. Après ma démission du gouvernement, j'ai finalement le sentiment, la conviction que seule l'acceptation de la vérité me permettra de lever cette contradiction, je l'espère, de rebâtir une vie, en tout cas d'être en accord avec moi-même.
En décembre 2016, Jérôme Cahuzac a été condamné à 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Il a fait appel et il sera donc rejugé à partir du 12 février prochain. Et cette fois-ci, pour le défendre, il a choisi le plus célèbre et le meilleur des avocats, Maître Éric Dupond-Moretti.
14h, 15h,
on de la raconte sur Europe 1.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un grand mensonge, l'affaire Jérôme Cahuzac, du nom de ce ministre du budget qui, en 2012, est accusé par Mediapart d'avoir détenu un compte à la banque suisse UBS, qui dit non, c'est pas vrai. Il dit ça pendant 4 mois, et puis il doit reconnaître publiquement qu'il a menti. Pour débriefer cette histoire, je suis avec Charlotte Chaffanjon, journaliste à l'Hebdo, et qui a écrit en 2013 « Jérôme Cahuzac, les yeux dans les yeux », publié chez Plon. Est-ce qu'on sait d'abord, Charlotte, comment Mediapart s'est mis sur la piste de ce compte en Suisse 2 mois donc après la nomination de Cahuzac à Bercy?
Alors, je vais vous décevoir un petit peu. Alors, il y a eu plein de rumeurs. La femme de Jérôme Cahuzac, il y a eu un divorce difficile. Effectivement, Michel Gonel, que vous avez évoqué dans votre récit.
Donc Michel Gonel, c'est son opposant politique à Villeneuve-sur-Lot.
De Villeneuve-sur-Lot,
c'est celui
etc.
à qui il pique le, et qui aurait enregistré cette conversation.
Qui a enregistré, puisque lui l'a dit, et oui. il l'a effectivement donné à la disposition de la justice. Moi, sur ce genre de questions, j'ai tendance à dire que finalement... ça n'a aucun intérêt. Je pense que ce qui compte, c'est les faits, et qu'en fait, si on commence à rentrer dans qui a donné, c'est embêtant.
Si, pour... C'est intéressant parce que c'est l'idée de la manipulation.
Oui, mais c'est embêtant pour le travail des journalistes, en fait. Si on passe notre temps à essayer de débusquer les sources, plus personne va nous parler. Ça va être compliqué d'enquêter, et du coup, il y a un petit quand même sujet autour, je pense, du respect des sources, etc. Moi, je ne sais pas qui a donné l'information en premier à Fabrice Tarfi.
C'est toujours intéressant de savoir si le journaliste d'investigation. C'est la suspicion qu'on a à l'égard du canard enchaîné depuis des décennies. Ouais. Est-ce que le journaliste d'investigation, c'est des dossiers qui arrivent par la poste dans des grandes enveloppes où tout est dedans et il n'y a plus qu'à reproduire? Non. Ou bien est-ce que c'est de l'investigation au jour le jour? Voilà.
En l'occurrence, pour parler de ce cas précis, je suis convaincue que Fabrice Arfi a énormément travaillé sur le sujet, à vérifier et voilà. Et même si, en fait, le journalisme, c'est toujours une question de rencontre quelque part et de confiance et de chance même. Parfois, où on a une information qui tombe, il faut tout vérifier, c'est un travail titanesque. Si nous, journalistes, commencions à dire la source est machin et la source est
oui,
un tel et
cuit,
on ne peut plus travailler en fait. Donc vous voyez ce que je veux dire, il faut faire attention, je pense, avec ça.
Il y a ce moment qui est intéressant où Cahuzac reçoit les 5 questions de Fabrice Arfi. Il fait le choix à ce moment-là d'appeler Laurent Mauduit, qui est l'un des cofondateurs de Mediapart avec Edoui Plenel. Pourquoi Mauduit et pas directement Arfi, à votre avis?
Alors, je veux juste vous donner une petite précision. La première chose qu'il dit en recevant le mail, les premiers mots qui sortent de sa bouche, ce sont des merdes comme ça, je ne veux pas être au courant. Donc déjà, je trouve que ça en dit long sur son état d'esprit par rapport à sa relation avec son compte. Et il appelle Laurent Mauduit parce qu'il le connaît tout simplement. Il a été président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, Jérôme Cahuzac, à partir de 2010 jusqu'en 2012. Et dans le cadre de cette activité, Laurent Mauduit, qui était journaliste et qui a travaillé sur les questions économiques, le connaissait.
Ouais, et Mauduit est un ancien journaliste du Monde. C'est un vrai journaliste traditionnel, c'est-à-dire voilà. Qu'il a des relations avec les politiques, alors qu'Arfi est un zébulon pour
eux. Il ne le connaît pas, en tout cas.
Voilà, il le connaît pas. Est-ce qu'Éric Woerth était au courant? Parce que donc, Arfi, dans son mail, laisse entendre que Woerth était au courant. Enfin, laisse pas entendre, il écrit que Woerth était au courant depuis 2010. Depuis l'époque.
2008 même.
Depuis 2008. Est-ce que Woerth était au courant?
Alors, pour préciser, Mediapart explique qu'il y a eu en fait un échange de bons procédés. En 2008, Éric Woerth, qui était à Bercy, reçoit une information sur la situation fiscale de Jérôme Cahuzac et la met sous le tapis. En 2010, alors que Jérôme Cahuzac est à la commission des finances, il a dans les mains des informations sur la vente de l'hippodrome de Compiègne, dans laquelle Éric Woerth est en grande difficulté pour prise illégale d'intérêt, il y a eu un non-lieu plus tard, et donc aurait aidé Éric Woerth à se sortir de cette affaire. C'est ça exactement ce qu'explique Mediapart. Éric Woerth, je lui ai parlé, il nie totalement. Il explique que c'est inhumain. Il dit que tout ça est absolument n'importe quoi. En revanche, ce qui est certain, c'est que les deux hommes se connaissent, que Éric Woerth a beaucoup de respect professionnel pour Jérôme Cahuzac et que Jérôme Cahuzac apprécie Éric Woerth. Je ne peux pas vous prouver que Éric Woerth était au courant. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que j'ai interrogé beaucoup de gens à droite et à l'époque, tous m'ont dit « Non mais attendez, en fait, c'est de la folie. Si on avait été au courant que la personne en charge de la politique fiscale de la campagne de François Hollande avait un compte en Suisse, évidemment qu'on se serait servi de cette bombe pour finalement gagner la présidentielle. »
Alors ça, c'est un argument très convaincant, mais quand même, on doit garder en tête que tous ces gens-là ont accès au service de renseignement français, à la DGSI, aux services fiscaux. Ils peuvent entrer dans la profondeur du sujet. Et la question vaut aussi d'ailleurs pour Hollande et Hérault. L'histoire telle que je viens de la raconter, telle qu'elle est racontée dans votre bouquin, dit qu'ils ne découvrent les choses qu'au dernier moment. Vous êtes convaincu par ça?
Alors, le fait que Jérôme Cahuzac avait un compte caché en Suisse, je pense que François Hollande n'était pas au courant. Il n'aurait pas pris le risque au moment de se faire élire. Surtout que François Hollande n'apprécie pas Jérôme Cahuzac, humainement. Ils ne s'entendent pas, ils n'ont pas la même histoire. C'est Jean-Marc Ayrault qui impose, pour plein de raisons, Jérôme Cahuzac à François Hollande. Ils ne s'apprécient pas et je pense que François Hollande, qui a assez peu dans ces cas-là de scrupules, ne l'aurait pas gardé. En revanche, je pense que quand les informations commencent à sortir, ils ont plus que des doutes dès le départ. J'ai eu accès à plusieurs textos de Jérôme Cahuzac après ses aveux, une dizaine de personnes à qui il écrit qu'il a menti au président de la République, qu'il a menti au Premier ministre, qu'il a menti à ses enfants, qu'il a menti à sa famille, qu'il a menti à ses collègues.
Non mais ça on l'entend bien. Mais simplement, à la limite, ça peut être inquiétant d'imaginer que le président de la République, qui a à sa disposition des centaines de policiers, des renseignements, de ce qu'on appelle les renseignements généraux,
François Hollande, vous savez, n'était pas au courant que Closer allait sortir le jour de la sortie de Closer. Donc oui. Voilà, et j'entendais son conseiller Gaspard Ganzer hier dire, mais on n'était même pas au courant pour Jérôme Cahuzac, comment vous vouliez qu'on soit au courant pour
François Gaillet.
François Fillon, en l'occurrence,
Fillon,
que c'était
ouais,
bon.
Ouais.
On a quand même tous beaucoup bossé sur le sujet.
Il n'y a rien qui sort.
En tout cas, vous dire aujourd'hui que François Hollande connaissait les détails, je ne peux pas.
On va marquer une pause et s'intéresser maintenant à cette demande d'entraide qui est faite à la Suisse et qui se traduit par un document assez surréaliste puisque ce document a l'air de mentir. Les Suisses ont-ils menti? Après la pause.
Europe 1. On de la raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un mensonge, le mensonge de Jérôme Cahuzac qui pendant 4 mois, alors que Mediapart l'accuse d'avoir eu un compte à la banque UBS en Suisse, dit non, je n'en ai jamais eu et qui au bout de 4 mois est contraint de faire son mea culpa. Et je suis avec Charlotte Chaffangeon qui a écrit l'un des bouquins de référence sur cette affaire, Jérôme Cahuzac, Les yeux dans les yeux, publié chez Plon. Charlotte Chaffangeon, vous êtes aujourd'hui journaliste au magazine L'Hebdo. Alors, il y a ce moment où François Hollande demande à Pierre Moscovici, qui est ministre des Finances, de demander une entraide au ministre des Finances suisse et de répondre à la question « Jérôme Cahuzac a-t-il eu un compte en Suisse ?» Et la réponse qui tombe est « Il n'a pas eu de compte à la banque UBS depuis 2006 en tout cas ». Comment ça se fait que la Suisse mente? Alors, ou elle a l'air de mentir.
En fait, la Suisse ne ment pas. Ce qui se passe, c'est une question de formulation de questions. Il y a deux choses. La banque peut dire à quelqu'un, oui, vous avez un compte en Suisse.
Oui.
Donc si on demande, pouvez-vous dire que j'ai bien un compte en Suisse? Ça, c'était la question que Jérôme Cahuzac aurait dû poser déjà en décembre, ce qu'il n'avait pas fait. La banque peut dire oui ou non. Si on demande, confirmez-vous que je n'ai pas de compte en Suisse? Vous voyez la nuance oui. sémantique. La banque n'a pas à répondre. Ensuite, il y a un deuxième point qui est très important. C'est qu'en fait, la date de 2006 est biaisée par le fait que Jérôme Cahuzac avait transféré ses fonds d'UBS en 2000 à une société de gestion qui s'appelle Rail & Compagnie. Donc qui était finalement une société écran qui a masqué les fonds et qu'ensuite, juste avant d'arriver à la commission des finances en 2010, il les a envoyés à Singapour. Donc en fait cet argent existait, était bien caché en Suisse, mais n'était plus chez UBS. Donc on peut demander à UBS tout ce qu'on veut, à partir de 2006, l'argent n'est plus chez eux.
La question c'est, est-ce qu'il est possible que la Suisse, pour être agréable au gouvernement français et au président Hollande, ait arrondi un peu les angles de ce retour d'information?
Alors écoutez, c'est pas une hypothèse qui a été évoquée quand j'ai travaillé sur le sujet, a priori. Donc je peux pas...
Parce que les Suisses savaient très exactement ce qu'elle était la question posée, en vérité, quelle que soit la formulation qu'ils reçoivent. Ils savent qu'au fond, il s'agit de faire tomber ou de sauver Cahuzac.
Bon, après, je sais pas si la Suisse avait quelque chose à faire du sort de Jérôme Cahuzac.
Non, mais de François Hollande, oui.
Mais en revanche, oui, mais là, en fait, c'est pas la Suisse, enfin, c'est la banque. Donc ensuite quand la France a demandé l'aide à la Suisse a demandé à la banque. Donc on rentre dans des chartes, j'ai envie de dire, tellement précises et suivies que voilà. Moi, si vous voulez, je peux vous lire ce que Moscovici a répondu à cette question précise. Oui. Pierre Moscovici, qui était ministre de l'économie, à la question précise que vous posez sur le mois de janvier, il dit si Mediapart avait écrit le compte n'était pas à UBS mais à la banque Rail & Compagnie, la question que moi j'aurais posée à la Suisse, donc moi ministre de l'économie, n'aurait pas porté uniquement sur UBS, donc ce qu'il a fait, mais à la fois sur UBS et sur la banque Rail. La face des choses en eût été évidemment changée. C'est la seule petite faille de Mediapart. Ils ont été précis du début à la fin, mais ils ont gardé une information essentielle, ce qui me pousse à poser une question incomplète à la Suisse.
Oui.
C'est un peu complexe, mais...
On comprend la mécanique. L'interview à Jean-François Achilly, qui était à l'époque à RMC, et qui fait cette interview pour BFM TV. Alors là, pour le coup, il n'a fait que des conneries jusque-là. Là, il fait quelque chose d'assez magique. Parce qu'au fond, il ne le savait peut-être pas, mais je crois que les Français adorent quelqu'un qui vient dire « J'ai déconné ». C'est tellement rare, oui.
Peut-être. Je ne sais pas si les Français adorent Jérôme Cahuzac.
Non, mais quelqu'un qui vient dire publiquement j'ai déconné, ouais, je crois que c'est assez payant. C'est un bon conseil qu'elle lui donne à Nomel.
Écoutez, vous parlez de l'interview, donc de post-aveu,
après
les aveux, où effectivement il va se repentir. Je ne sais pas si c'est un bon conseil, on peut malheureusement pas le mesurer, ce qui aurait été intéressant puisqu'il s'est retiré derrière de la vie politique, il ne s'est pas représenté aux législatives, on aurait vu quel résultat il aurait obtenu. C'est un exercice quand même extrêmement balisé. Moi, j'avais trouvé à l'époque qu'il était assez peu naturel, qu'il était quand même très... dans une composition, si vous voulez.
Est-ce qu'on a su d'où venait cet argent qui était sur ce compte à UBS, puis qui s'est retrouvé à Singapour?
Alors, je peux vous dire que j'ai assisté au premier procès en septembre 2016 et que c'est très, très, très compliqué. En fait, il n'y a pas que les 600 000 euros du compte de Singapour. Les 600 000 euros du compte de Singapour, à l'évidence, a priori, proviennent des activités de conseil auprès des laboratoires pharmaceutiques de Jérôme Cahuzac, qui a monté une société de conseil après avoir été au cabinet du ministre de la Santé, Claude Évin. Tout ça, c'est la Rocardie, c'est les proches de Michel Rocard.
Oui.
Donc, Jérôme Cahuzac expliquera lors de son premier procès que cet argent devait servir à financer la campagne présidentielle de Michel Rocard de 1995. Il n'a pas eu lieu puisque Michel Rocard ne s'est pas présenté.
Et il était commode de le dire puisque Michel Rocard était mort au moment de ce procès.
Ce qui a outré la cour et qui n'a évidemment pas retenu l'argument puisqu'il aurait pu le dire avant. Ensuite, Jérôme Cahuzac ne s'est pas arrêté dans ses activités illégales. Aux alentours des années 2000-2001, le procès a révélé, il l'a admis et raconté, des histoires absolument abracadabrantesque. Il partait au Moyen-Orient, au Proche-Orient, exercer sa profession de chirurgien capillaire, ce qui rapporte beaucoup d'argent, et il revenait avec des valises remplies de billets, donc à hauteur de 60 000, 70 000 euros, qu'il déposait à cette fameuse société de gestion dont je vous ai parlé, Rayleigh Company, en liquide, en Suisse, qui n'était jamais déclarée. Il y a aussi de l'argent du couple qui était à l'île de Man, au large de la Grande-Bretagne, qui n'était pas déclaré, c'était un paradis fiscal. Enfin, voilà. Donc, je pourrais même pas vous dire exactement la somme qui a été dissimulée par Jérôme Cahuzac et le couple Cahuzac entre le début des années 90 et le milieu des années 2000.
On dit 600 000, c'est beaucoup plus, quoi.
C'est beaucoup plus.
C'est beaucoup plus que ça. Merci beaucoup, Charlotte Chaffanjon, d'être... Oui.
Non, je voulais juste vous lire une phrase qu'il a dit au procès, je trouve qu'elle dit tout. Il a dit « Il y a eu en moi quelqu'un qui a fait ça, ce n'est pas que moi, mais c'est aussi moi. Je dois admettre que c'est une part de moi qui l'a fait, je suis donc coupable, que voulez-vous que je vous dise ?»
C'est ce que Simone Weber n'est pas arrivée à dire. Mais en gros, c'est la même mécanique, ça. Ça, c'est la duplicité de l'homme, quoi.
Ouais, mais je trouve cette voilà.
Ça s'appelle le clivage en criminologie et il est clivé. Jérôme Cahuzac, manifestement. Merci en tout cas. Je rappelle le nom de ce livre qui est le vôtre. Jérôme Cahuzac, Les yeux dans les yeux, publié en 2013 chez Plon.
14h-15h, on de la traconte sur Europe 1.